Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Épisode numéro 145. Nous sommes toujours le 26 septembre 2025. Je suis Horacio González et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que... Derrière la tasse de café ou de thé, Sébastien Brunat. Bonjour Sébastien.
Bonjour Horacio.
Qui n'est pas un robot? Ça doit être bien Julian. Bonjour Julian.
Bonjour Horacio.
Et derrière les poneys de Symphonie, il doit être Mathieu. Bonjour Mathieu.
Salut Horacio, salut Julien, salut Sébastien.
C'est un plaisir de vous avoir tous les trois à nouveau dans un autre épisode. Alors, faire un tour de table rapide pour ceux qui ont loupé l'épisode dernier. Mathieu, qui tu es ?
Eh bien, je suis expert technique chez Sensio Labs, donc une agence française qui fait de l'accompagnement de clients sur la stack PHP, précisément Symfony. Et je les accompagne sur des études d'archi, sur des missions de coaching, coup de poing, on vient craquer des sujets complexes avec eux, voilà. Et je suis aussi membre de la core team de Symfony, donc framework PHP français, international maintenant, depuis 4 ans. Et spoiler de l'épisode, on prépare la version 7.4 qui s'appelle LTS et la version 8 qui arrive.
Nickel. Julian, qui t'y est ?
Et qui je suis ? Julien Durion, je suis un des fondateurs de Clever Cloud. Aujourd'hui, j'ai un poste de vieux sage sur la montagne. Donc, j'explique un peu les vieux trucs techniques hein, de la boîte, en accompagnant un peu les nouveaux pour construire le futur de Clever Cloud.
Nickel. Et Sébastien, à toi de jouer.
Eh bien, Sébastien Brunat, je suis ingénieur avant-vente dans l'équipe commerciale Clever Cloud pour accompagner tous les nouveaux clients dans leurs projets et leur apporter des solutions techniques et des réponses à leurs besoins.
Nickel. Bon, bah, on a plein de liens encore. Et avant de commencer, Mathieu, je voulais profiter que tu sois là pour te poser des petites questions sur quelques sujets que je trouve intéressants autour de Symfony. Allez, on va commencer. Symfony UX, qu'est-ce que c'est ? Parce que tu m'as parlé l'autre jour pour faire des front-end avec peu de JavaScript et ça m'a intrigué.
Symfony UX, ouais, c'est une initiative qui a été lancée il y a maintenant quelques années. J'ai plus la date exacte en tête, mais ça fait un petit moment. L'idée principal derrière Symfony UX, c'est d'arriver à construire avec les outils mis à disposition par Symfony des applications web qui auraient le look and feel d'une SPA avec React, Vue ou des technos comme ça, mais justement en écrivant peu voire pas de JavaScript pour les cas les plus simples et en se basant sur en fait la suite JavaScript qui est la suite officielle, on va dire entre guillemets, de Ruby on Rails qui est Hotwire. Et donc Hotwire embarque plusieurs libs, donc on a Stimulus, Turbo, et une autre pour faire du mobile natif, mais on ne va pas en parler, celle-là. Et en fait, Stimulus et Turbo sont la colonne vertébrale de Symfony UX, et par-dessus ça, ou à côté, ça dépend de quel point de vue on se place, on a, côté Symfony, deux types de composants d'interface. On a les Tweak Components pour faire du statique, donc là on peut avoir... des éléments d'interface comme un message d'alerte, comme, je sais pas, une petite sidebar ou un petit bouton relativement simple. Et on a des live components qui, eux, vont avoir des interactions plus avancées. Ça va être de la soumission de formulaire, un peu comme on faisait à l'époque avec jQuery en Ajax, donc en arrière-plan. Et si on branche tout ça avec Turbo, on a l'interception de tout ce qui sort sur le réseau par Turbo. Et donc, on n'a jamais de rafraîchissement, on n'a jamais le white flash de refresh d'une page. Et donc, ça rend l'expérience utilisateur un peu plus fluide, sans que ça devienne non plus une usine à gaz côté développement, parce que Turbo prend en charge beaucoup de choses, mais on peut se brancher à différents endroits pour faire ce qu'on a besoin de faire, rajouter des dents de sécurité, des choses comme ça. Donc voilà, en gros, c'est ça, cette initiative-là, c'est de fournir de quoi faire du front-end moderne, mais en se passant, d'ailleurs la plupart du temps, de la phase de build. Et donc en fait, avec tout ça, on se passe aussi de Node.js et on tire parti de la fonctionnalité moderne des navigateurs, on tire parti de Import Maps. Et alors après, on a quand même de quoi gérer des stacks modernes, donc gérer par exemple du TypeScript ou du Tailwind CSS qui ont besoin d'une phase de compilation. Mais si vous voulez faire du CSS pur et du JavaScript en utilisant quelques librairies en pur JavaScript, eh ben, vous passez d'une phase de build et donc vous simplifiez votre pipeline de déploiement, etc.
Carrément, et je trouve intéressant que plutôt que réinventer la roue, vous êtes parti sur des outils qui, à la base, étaient plutôt orientés communauté Ruby, mais qui sont très intéressants.
Bah ouais, c'est vrai que cette stack-là, en tout cas Stimulus et Turbo, les deux, sont intéressants parce que ça réinvente pas non plus complètement la roue comme React a pu le faire à une certaine époque où on change complètement de paradigme et on a besoin du coup de réinventer des choses qui sont standards et natives dans le web depuis longtemps. Et là, vraiment, on se base sur comment fonctionne du DOM, comment fonctionne le moteur JavaScript, et on va pas tout réinventer. Et donc, ça permet pour les cas les plus simples, comme je disais, soumettre des formulaires, des choses ultra classiques qu'on a souvent besoin de faire dans des applications web. Avec Symfony UX, en fait, on a quelques composants sur étagère, notamment de l'autocomplete, un champ d'autocomplétion avec de l'autocomplétion qui va chercher en base. Je pense que ceux qui font un peu de front et un peu de web depuis une vingtaine d'années, vous l'avez tous déjà implémenté. C'est un peu redondant, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et ben clairement, avec Symfony UX, on a un composant autocomplete, on branche ça directement avec nos entités côté PHP, et on a besoin d'écrire absolument zéro ligne de JavaScript. Carrément. Autre qu'un bout de config, histoire de brancher le bon fichier au bon endroit. Mais voilà, hormis ça, on écrit zéro logique JavaScript qui va permettre de gérer cette fonctionnalité-là, ce composant-là de l'interface.
Pour éviter des douleurs indescriptibles à certains...
Voilà,
c'est ça. Utilisateur. Enfin, certains développeurs, du moins, utilisateurs, non, mais développeurs.
Et même, moi, je kiffe JavaScript. Par contre, là, tu évites de devoir ajouter un autre stack différent et devoir maintenir d'un côté un stack en PHP sur FrankenPHP ou Apache, à côté un autre stack avec la Galaxy Node. Non, tu regroupes. Et là, c'est carrément. Sympa comme approche.
Et on peut quand même utiliser des dépendances qui viennent du monde JavaScript. Hein. Rien ne t'empêche d'installer un Bootstrap ou n'importe quelle librairie en JavaScript dont tu aurais besoin. Parce qu'avec un port maps, on se base en fait sur un CDN et on va chercher des fichiers de dépendance, donc du CSS minifié, du JS minifié qui est distribué sur un CDN. Et on te le branche directement sans la phase de build. Donc, c'est comme si tu déclarais en disant j'ai besoin de, je sais pas, ouais, on va prendre Bootstrap par exemple parce que c'est plus simple, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tu as besoin du JS et du CSS de Bootstrap, tu mets pas l'URL direct du CDN dans ton code source, tu passes par un port maps qui va lui chercher le fichier, qui te le met dans tes vendors et au moment du build de ton application, tu déclenches ça va. En fait, ça va aller télécharger les vendors, mais juste ils vont pas être sur un registry, ils vont être sur un CDN et on te les met en local et hop, tu y as accès. Et t'as tout ce qu'il faut.
C'est fou ce truc-là. Ça fait vraiment une expérience unifiée où t'as pas besoin de sortir de Symfony, quoi.
Une expérience idiomatique Symfony, c'est très cool.
C'est très très cool.
UX.symfony.com.
UX.symfony.com. On vous laisse les liens. Il y a plein de démos, voilà. Et donc c'est release. On est en version 2 et des brouettes, je crois. Je sais plus trop combien on est. Il me semble, j'ai entendu parler qu'il y a une 3 qui arrive à l'horizon, mais comme souvent dans le monde Symfony, c'est la communauté qui fait les versions. Hein, donc, alors Symfony UX, c'est pas sur les mêmes rails de release que Symfony, le framework PHP. Il y a un cycle de release à part, et donc là, c'est plus au fil de l'eau de comment les versions se construisent. Contrairement à Symfony, le framework PHP, qui lui a un calendrier de release fixe tous les 6 mois, tous les 2 ans.
Bon.
On reparlera peut-être si jamais le sujet se pointe dans nos liens.
Bon, et l'autre projet que je voulais que tu me racontes un peu plus, c'est Symfony AI.
Ouais, c'est la deuxième initiative.
De l'intelligence artificielle et Symfony, raconte.
Ouais. Donc ouais, autour de Symfony, le framework, on avait donc l'initiative UX qui visait à rendre plus digeste et facile tout le monde front-end pour les développeurs à Symfony, et on a récemment annoncé, au mois de juillet dernier, Symfony AI, qui est donc une autre initiative qui vise à inclure tout un set d'outils dédiés au monde PHP. Hein. Alors c'est porté par Symfony, mais c'est dédié à toutes les applications PHP. De quoi intégrer de l'intelligence artificielle, en tout cas des technologies liées à l'intelligence artificielle dans des applications PHP, et évidemment avec les bundles Symfony qui vont bien pour une intégration native dans le framework. Et donc en fait,
l'idée, pour comprendre un peu mieux, l'idée c'est vraiment que dans ton projet Symfony, tu puisses permettre à tes utilisateurs d'accéder à des agents d'IA, à des plateformes d'IA. C'est pas du des outils pour t'aider à développer ton application Symfony.
C'est les deux, en fait.
C'est les deux, ok.
Ouais. C'est les deux parce que tu as cette partie plateforme où l'idée, c'est d'avoir une interface unifiée. Tu vas écrire ton code qui dit je vais aller taper sur une plateforme ou je vais aller taper tel modèle, je vais envoyer des prompts, etc. Et en fait, peu importe la plateforme que tu vas vouloir utiliser, en changeant une variable d'environnement, tu vas dire je vais aller chez OpenAI, je vais aller chez Mistral, je vais aller chez Anthropic, ou alors j'ai des besoins privés et je vais manipuler de la donnée privée, donc je veux faire tourner en local et je peux causer avec Ollama, avec Docker Model Runner, avec LMStudio. Et en fait, on est en train d'augmenter la quantité de plateformes qu'on supporte, parce que généralement, la plupart d'entre elles se basent sur le standard de facto d'OpenAI au niveau de l'API, ou alors un dérivé, genre je pense à Perplexity. Ils ont une partie compatible OpenAI et ils ont leur fonctionnalité en plus, et donc il y a des choses en plus dans l'output. Mais donc voilà, on se base là-dessus pour les plateformes. Et on a aussi un composant agent qui lui va permettre à la fois de construire des agents en PHP, enfin en Symfony, enfin d'abord en PHP et ensuite on a le bundle qui permet de brancher ça à des applications Symfony. Mais aussi, tu pourrais éventuellement interroger des agents à l'extérieur, voire interroger des serveurs MCP qui exposeraient des outils. Et donc l'autre composant, c'est évidemment, on va y venir, MCP. Et en fait, le SDK MCP qui était à l'origine dans Symfony AI vient d'être incorporé à l'organisation MCP officielle de Anthropic, parce que ça devient l'implémentation officielle PHP de MCP. Donc il y a eu une discussion tripartite entre Anthropic, la fondation PHP et Symfony pour organiser ça. Et donc si je reprends l'historique en fait de tout ça, avant le mois de juillet, la base de code de Symfony AI s'appelait PHP LLM, était portée par Christopher, donc qui à l'occasion de cette inclusion de son projet dans l'organisation Symfony a rejoint la core team. Donc voilà, c'est comme ça que s'est construite cette initiative. Donc ça a été annoncé au mois de juillet. Il n'y a pas de release officielle, on est encore en phase de construction, il y a encore des choses qui bougent. Il nous manque quelques petites briques côté comment on va stocker des historiques de messages de ce qu'on échange avec des LLM pour avoir une sorte de mémoire. Et il va nous manquer. Non, c'est pas un manque, c'est juste qu'on essaie aussi de suivre les standards, ça bouge très vite, et d'incorporer les plateformes au fur et à mesure qu'elles sortent. Et voilà, on essaie d'arriver à quelque chose de stable qui sera utilisable d'ici la fin de l'année, on va dire. On essaie d'arriver à un truc comme ça.
Nickel, c'est une bonne nouvelle. Et carrément, le fait qu'il soit devenu l'implémentation de référence de MCP côté PHP, c'est très sympa.
Ouais, et en fait, c'est pas que le SDK MCP qui vient de Symfony AI et qui vient de PHP LLM à l'origine, c'est aussi la fusion avec une autre librairie qui, de son côté, implémentait le protocole. Et donc, la personne qui développait aussi cette librairie était incluse dans les discussions, et donc, ils sont mainteneurs. L'équipe de Symfony est mainteneur de ce SDK, et cette personne-là aussi, de l'autre côté, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais est devenue aussi mainteneur du SDK officiel côté Anthropic. Donc maintenant, il y a une belle petite case PHP sur la doc de MCP avec un SDK officiel.
C'est bien ça.
Ouais. C'est Chris, Christopher qui a beaucoup porté ce sujet-là, donc ouais, c'est chouette.
Bon bah on va
et j'ai oublié un composant, il y a le composant store aussi qui permet de discuter avec tout un tas de bases de données vectorielles ou de services de bases de données vectorielles managées pour faire du RAG et du coup manipuler, interroger vos données privées que vous aurez vectorisées, faire la recherche sémantique, tout ça.
Ouais.
Et donc on a du ChromaDB, du CyrilDB, du PGVector, tout un tas de trucs.
Nickel.
Voilà.
Bon bah merci. Tiens, en parlant de PGVector, en parlant de PG... Ouais. Hier, c'était journée de release pour PG 18. Alors, qui se lance à nous raconter un petit peu sur PG 18?
Eh ben, je peux. J'allais faire la blague PG 18 qui sera disponible ce soir sur Cleverload, mais non, je vais me faire exploser par l'équipe. Franchement, si je dis ça.
Par contre, je peux dire un truc. PG 18, sorti hier, Cancer Air Française. À 18h, un des premiers meet-up au monde dédiés à PG18 s'était fait par des gens de Clever à Brest lors des finish dev hier soir.
Incroyable.
Ouais, c'est vrai. On avait Lucas de chez nous qui a présenté un talk sur PG18 justement. Qu'est-ce qu'il y a de choses intéressantes? Pas mal d'améliorations des performances. avec une première amélioration qui est liée à une implémentation de d'IO, donc enfin en gros de lecture disque, asynchrone, où notamment plutôt que d'utiliser le fameux call, je ne l'ai plus en tête, le fameux call qui permet d'écrire sur le disque la flush ou je ne sais plus quoi, enfin qui est un peu le truc un peu classique, voilà le sync avec le disque. Il y a une implémentation, il y a différentes implémentations, dont une, s'il y a des gens qui ont écouté nos massis kernels ces dernières années, vous avez dû entendre parler du fameux IO Euring, qui est une nouvelle interface kernel qui permet d'avoir un genre de buffer pour balancer tout un tas d'opérations IO au kernel, pour qu'ils puissent potentiellement les faire en parallèle ou les ordonner et les faire toutes, ou les faire toutes d'un coup. Pour certaines. Et donc ça c'est quelque chose où on sait qu'il y a pas mal de choses qui ont été réécrites pour utiliser IO Euring et que ça améliore les perfs, et PostgreSQL n'y manque pas parce qu'ils ont rajouté ça dans PG18. Donc c'est quelque chose qui par défaut doit être ils ont activé une de celles-là par défaut, et on peut toujours revenir sur le mode synchrone, mais voilà, déjà juste lire les fichiers c'est plus rapide. Parce que PostgreSQL a du coup un peu plus de mécanismes pour dire au système où aller lire le fichier. Parce qu'avant, il demandait au système et le système faisait bêtement une lecture du fichier. Sauf que comme PostgreSQL a une idée de la data qui est dans le fichier, maintenant il peut un peu plus indiquer au système comment aller lire le fichier, quelle partie du fichier lire, etc. de façon un peu plus rapide. Il y a ça, ils ont beaucoup amélioré aussi les, enfin beaucoup, ils ont amélioré pas mal les requêtes, la façon dont ils gèrent certains index pour certaines requêtes pour aller encore plus vite, avec une meilleure optimisation et un meilleur query plan. Donc en fait, quand, peut-être que je vais expliquer ça, quand on fait une requête sur n'importe quelle base de données, je pense SQL ou pas SQL, on commence par parser la requête, essayer de comprendre, enfin on commence, le système parse la requête, comprend ce qu'elle veut dire, et ensuite il va faire ce qu'on appelle un query plan, donc un plan de requête. Il va dire je vais d'abord aller lire telle donnée, puis lire telle donnée, donc aller chercher tel index ou tel index, et il va essayer de trouver la manière de faire la plus rapide pour aller exécuter la requête et récupérer la donnée qu'on veut. Par exemple, il va dire j'ai 5 index sur ma base de données, on fait une requête où on va tester pour la valeur de tel champ. Tel champ, il est dans tel index, donc je vais plutôt utiliser tel index en priorité. Et donc ça a été pas mal amélioré, donc ce qui rajoute encore plus des performances dans PostgreSQL 18. Ils ont amélioré des choses sur la gestion d'Unicode, etc., si on veut faire beaucoup de full text search et de trucs comme ça dans PostgreSQL. On peut se connecter maintenant en PG18 avec de l'hôte. Donc utiliser des mécanismes OAuth2 plutôt que le système password classique. Et d'ailleurs, en parlant du mot de passe, ils ont déprécié, et ça sera supprimé dans, je pense, une ou deux versions, l'authentification password MD5. Où on envoyait un genre de MD5 sum du mot de passe, et voilà. Qui avait déjà été, c'était déjà très conseillé d'utiliser plutôt le mode Scram. Je sais plus ce que veut dire Scram, mais en gros, on signe un secret, on signe un token machin qu'on envoie pour pouvoir s'authentifier. Comme ça, le password ou le hash du password n'a pas à transiter sur le réseau. Donc déjà, ça fait quelques années que c'était possible d'utiliser Scram, et d'ailleurs plutôt par défaut. Maintenant, MD5 a été déprécié.
Youhou. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée.
Exactement.
Mais au 2, du coup, ça veut dire que ta base de données PG va se connecter à un provider d'identité.
Ouais, potentiellement, ouais.
Ouais,
okay, cas, à la fin, en fait, tu t'authentifies une première fois, tu obtiens un token qui a une certaine durée de validité, et tu vas faire tes requêtes.
Et PG peut valider l'authenticité de ce token et vérifier la signature. Ouais. Ok, d'accord. Intéressant.
Du coup, il n'y aura plus beaucoup de raisons de rester sur PG12 maintenant que PG18 sera disponible dès ce soir.
On a dit qu'on n'annonçait pas ça.
Non, mais je ne doute pas que ce sera prochainement sur CleverCloud, parce que les travaux étaient déjà bien entamés.
Oui, en fait, on a un collègue qui bossait dessus déjà, alors que c'était encore en bêta. Parce que le plus long pour mettre à jour, en l'occurrence PostgreSQL, mais on a les mêmes problèmes avec MySQL et des trucs comme ça, c'est qu'il y a une tonne de plugins. de modules. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué dans Clever Cloud de dire aux gens, attention, si tu prends PG17, tu as tel module, tel module, tel module. Si tu as PG18, bah, tu as un sous-ensemble de ces modules parce que les autres n'ont pas encore été portés à PG18. Donc, c'est arrivé qu'on mette 6 mois, 1 an avant de sortir une nouvelle version de PG sur Clever Cloud parce qu'on attendait qu'un certain nombre de modules soient disponibles. Depuis, on a fait du tri. Il y a certains modules où on a décidé qu'on n'en voulait plus.
Notamment ceux remplis de CVE horribles.
Voilà, PLV8 pour ne pas le nommer.
Ah, est-ce que PG Vector sera à jour, on pourra faire du rag avec PG18 la semaine prochaine sur Clever?
Et ben ça, je t'avoue que je n'ai pas l'information.
Non,
mais,
non.
Mais effectivement, ça fait partie des choses où c'est toujours le choix entre est-ce qu'on sort un PG18 avec un sous-ensemble de fonctionnalités par rapport à la version d'avant pour l'avoir dans la semaine, ou est-ce qu'on attend un peu plus pour avoir plus de fonctionnalités. Et dans l'autre truc que j'ai bien aimé, c'est on pouvait déjà générer des UUID random dans PostgreSQL avec gen random UUID.
Très
pratique. On avait un UUID
dit.
V4. Voilà. Et le problème des UUID V4, c'est que comme c'est complètement random, ça a tendance à faire des. À péter, enfin, à réduire les performances des index. Parce que quand tu fais complètement d'aléatoire, tu te retrouves à avoir des UID qui se retrouvent groupés au même endroit dans ton index, et donc après, il faut faire des, faut descendre de plusieurs niveaux. Et il y a maintenant l'implémentation V7 des UID qui se base, en gros, la première moitié, pour faire simple, de l'UID, c'est un timestamp. Ce qui fait que tes UID sont maintenant beaucoup plus simples à indexer et à rechercher.
Et sont rangées dans l'ordre.
Et à mettre en cache.
Et sont rangées dans l'ordre, etc. C'est important aussi.
Voilà. Ce qui peut poser des problèmes dans certaines API, d'avoir un peu trop d'ordre et un petit peu trop de timestamp. Mais en tout cas, en termes de performance dans le stockage base de données et dans les index, ça peut en apporter d'utiliser UID V7.
Le seul problème que certaines personnes disent, et moi je trouve le cas un peu limite, c'est que du coup, dans les UID, tu as les timestamps éclairs. Si le timestamp c'est une donnée sensible pour ton application, là par contre, ça peut poser un souci.
Exactement. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Il y a 2-3 autres trucs qui ont été ajoutés, mais moins gros que le support de hôte et les perfs.
Bah, merci beaucoup pour cette. Résumé, bon, bah, on va continuer, bah, quitte à être sur les releases, récemment aussi, depuis les dernières massies, il y a une autre grosse release qui a été faite, c'est la release de Java 25. C'est vrai que depuis que Java s'est mis à faire des releases tous les 6 mois, le numéro de version tombe à une vitesse vertigineuse, mais quand même.
Je crois que c'est plutôt la mode, hein, de faire comme ça.
C'est comme Google Chrome à une année, on était sur Chrome 5, 6, et puis là on est à 100, je sais pas combien.
Enfin, Firefox, c'est pas forcément.
Firefox, c'est. Ouais, pas Firefox aussi.
Mais c'est version
Java 25, 100 va arriver en fait.
Bah ouais, mais c'est version 25, c'est une version LTS, une version. Bah, avec plein de nouveautés aussi. Et je ne suis pas aussi courageux que Julien. Je vais pas vous donner une liste, je vais plutôt vous laisser la liste vers la longue série de petites nouveautés, mais toujours à la façon Java, c'est-à-dire avec la rétrocompatibilité qui va bien.
Là, il y a un truc que j'ai trouvé, si on peut parler de une ou deux nouveautés, on ne va pas taper toute la liste parce qu'elle est quand même énorme. Il y a une nouveauté que j'ai beaucoup aimée, c'est, comment ils l'ont appelée celle-là, Compact Source File.
Oui.
En fait, quand tu débutes dans Java, on commence par te dire tu dois créer une classe, faire ton manifeste pour qu'il pointe vers la classe, que la classe elle ait une méthode main qui soit public, statique, void, etc. Et dans la JEP 512, qui sont en gros les propositions de changement de Java, et donc a été intégrée en Java 25, maintenant tu peux juste faire un fichier Java qui contient juste void main, et faire des trucs dedans, et pour s'il y en a qui ont un peu fait de Java dans leur vie, pour afficher des messages, historiquement, on utilisait system.out.println, etc. Et ils ont sorti un nouvel objet qui s'appelle IO, tu fais IO.println ou IO.readLN, et t'as plus à sortir ton buffer reader, etc. Ce qui fait que tu peux faire un script en Java, en quelques lignes, en faisant sauter tout le boilerplate traditionnel qu'on reproche quand même beaucoup à Java, hein, la verbosité de tous les imports, etc. Pareil, si dans ton main, tu as besoin d'utiliser une liste, bah, tu n'as plus besoin d'importer java.util.list. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'imports qui... En fait, dans beaucoup de langages, si tu as besoin d'une liste, tu dis que tu utilises une liste parce que l'import est par défaut dans le langage, parce qu'on sait que tout le monde va utiliser une liste. Là, en Java, avant, tu étais obligé d'aller importer ta classe de liste, etc. Même si c'était dans java.util, qui est quand même le truc du module de base de Java.
Après, c'est le compilateur qui...
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le mode compact où tu as juste à faire... en fait, tu fais ton fichier, tu fais void main, et là, tu fais io.println de list of machin, et le truc est pré-importé déjà dedans.
Pour ceux qui ont déjà utilisé Gbang, en gros, les choses pour lesquelles on utilisait Gbang avant, c'est-à-dire pour pouvoir démarrer rapidement à partir d'un simple main, maintenant sont standards en Java. C'est un bon exemple d'écouter ce que dans la communauté FC avant, avec Gbang, on arrivait à faire ça simplement. Maintenant, on va pouvoir faire ça en Java natif, ce qui va quelque part simplifier énormément les chemins d'apprentissage de Java, qu'il y avait des lourdeurs qui n'étaient pas compréhensibles dans un langage moderne.
Yeah, ça me fait penser un petit peu à la discussion qu'on avait avec Horacio quand on s'est croisé à Lille la semaine dernière. C'est le pont un peu avec PHP, enfin avec Symfony en l'occurrence, où depuis quelques années, on a une initiative aussi qui est d'améliorer la DX, la développeur expérience, et donc de réduire les boilerplates de pas mal de choses dans des endroits où, ok, on peut le faire, mais c'est lourd et compliqué, et c'est souvent la même lourdeur et complexité qui revient quand on veut faire quelque chose. Et donc réduire ça, ça permet d'être plus efficace, plus productif, et d'avoir moins de questions à se poser quand on veut implémenter quelque chose. Effectivement, là, dans Java, si un simple hello world et il faut faire 14 imports et utiliser des classes à rallonge et tout, et avoir une quantité de code qui reste la même, bon, c'est
pas pour rien que les IDE les plus évolués ont été créés pour Java, parce que en fait, t'as tellement de boilerplate que en fait, c'est pas si compliqué que ça de coder un IDE qui va aller te chercher les bons imports, ouais, etc. C'est juste que bah, ça t'aide tellement, quoi. Le coder du Java en contrôle espace dans Eclipse en 2005-2006, c'était vraiment, enfin, c'était top, parce qu'en fait il y en avait tellement à écrire que c'était un petit peu lourd. Si je peux pointer une autre petite nouveauté qui m'a fait plaisir dans Java 25, c'est qu'il y a pas mal de, enfin il y a 2-3 ajouts de gestion de sécurité slash cryptographie. Par exemple, maintenant on peut faire de l'encoding et décoding au format PEM, vous savez, le fameux private key, là, avec le truc. Avant, tu étais obligé d'aller sortir une lib pour faire ça. En général, tu allais chercher à Bouncy Castle, ce genre de choses. Et ils ont rajouté donc dans Java des API qui te permettent de faire de l'encodage d'une clé PKCS8, je ne sais quoi. Bref, au format PEM. Et pareil, j'ai vu passer un autre truc sur key derivation function, donc
FDK, pareil, ouais,
pour éviter d'avoir à importer des énormes libs un peu lourdes à utiliser, encore une fois pour rendre simple l'utilisation de la cryptographie. Si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus,
non, mais voilà, il y a une liste assez considérable de nouveautés. Je vous conseille d'aller jeter un œil et Boba, en faisant un clin d'œil à l'épisode précédent, parce que Java est toujours pas mort, ou il est toujours vivant, selon comme vous voulez le voir. Si vous n'avez pas la ref, écoutez l'épisode précédent. Sébastien, tu veux nous parler de quelque chose d'autre?
Oui, on va bien trouver un sujet qu'on n'a pas encore abordé.
Un petit PHP 8.5.
Voilà, c'est simple,
faire comme
par
si
exemple.
On avait parlé déjà de PHP 9.
Oui, on a parlé de PHP 9 dans l'épisode précédent.
on a sauté un peu une version.
On a parlé de futur, maintenant on va parler de presque présent, quoi.
Voilà, bah alors je laisserai plutôt Mathieu en parler de PHP 8.5, parce que je n'ai pas assez étudié les nouveautés de PHP 8.5 pour en parler efficacement.
Et voilà, la patate chaude arrive dans les mains de Mathieu qui va les attraper avec grâce.
Eh bien, la version 8.5 de PHP, donc est celle qui est en cours de développement là, depuis quelques années maintenant, ouais, au moins un an, arrive à grands pas parce que la RC1 est sortie hier, donc le 25 septembre, et on commence à arriver à quelque chose de proche de la version finale. Donc les versions bêta étant finies, ça y est, le feature freeze fixe est arrivé, on ne merge plus de nouvelles features. Mais bon, c'était déjà un peu le cas depuis un petit moment, et dans les grandes lignes, la grosse nouveauté, pas au sens cœur du langage, mais c'est du sucre syntaxique, c'est le pipe operator qu'on peut retrouver dans Elixir, donc qui permet, ça va pas être facile à imager hein, le pipe operator, mais quand vous encapsulez des appels, par exemple à des fonctions qui manipulent des tableaux pour faire un array map qui est englobé dans un array reduce, dans un array filter, dans des choses comme ça, et avec la syntaxe de pipe operator, ça va être beaucoup plus lisible, et on va pouvoir chaîner, récupérer le résultat précédent pour le repasser, etc., etc. Donc on va avoir quelque chose comme ça qui arrive dans PHP 8.5, mais utilisable dans certains cas, mais pas dans d'autres, parce qu'on ne pourra pas gérer le multi-argument, vu qu'on n'a pas encore en PHP les fonctions partielles qui devraient arriver peut-être en 9. Mais c'est encore un RFC.
Peut-être.
Voilà, c'est toujours un peu le même sujet, c'est qu'il y a des RFC, il faut que ça discute, la mailing list est parfois un peu bavarde, donc il y a beaucoup de discussions, mais ce qui est bien, c'est que ça permet de sortir aussi des features stables. Donc voilà, je sais pas trop où en est le vote, je sais même pas s'il était ouvert sur les fonctions partielles, mais je sais qu'il y a une RFC qui tourne, qui est en discussion.
C'est un peu compliqué d'expliquer radiophoniquement à quoi ça ressemble le pipe operator, comme tu disais.
C'est ça.
Si vous nous écoutez et qu'à un moment vous avez un PC sous la main, dans les
news in PHP,
cliquez sur le lien, voilà. Ouais. Cherchez les news, regardez à quoi ça ressemble.
Surtout
assez marrant.
Une syntaxe inédite dans PHP.
Exactement, un nouvel opérateur. Alors, paradoxalement, je pensais que le diff de cet ajout-là allait être énorme dans le corps en C. Et en fait, je suis allé voir, il y a, test compris, je crois qu'il y a 700 lignes. Ce qui n'est pas incroyable, en fait. Ça reste du sucre syntaxique, puisque c'est juste un déclenchement d'appel différent avec du passage d'arguments, mais ouais, je pensais que le diff allait être plus impressionnant que ça, mais non, non. Donc ça, c'est la grosse nouveauté syntaxique. Après, on a quelques ajouts de nouvelles fonctionnalités sur les tableaux. Array first, array last pour choper les premières et derniers items d'un tableau. Il y avait moyen de le faire, mais c'était pas aussi explicite que ça. Donc là, on a les versions explicites. On a la même chose pour les clés aussi, qui existent en fait depuis 7.3 pour les clés, mais on n'avait pas la possibilité de choper les premières et dernières valeurs. Et puis après, on a des choses pour enfin pouvoir récupérer l'error handler ou exception handler, parce qu'on avait moyen de les définir, mais on ne pouvait pas les récupérer. Donc ça, c'était un peu compliqué à ce niveau-là.
Ça fonctionne comment, ça? En fait, je ne connais pas du tout le error handler et exception handler.
Error handler, exception handler en PHP. Donc exception, globalement, on va dire que c'est des choses auxquelles tu peux t'attendre en tant que développeur. Donc tu peux t'attendre à ce que, exceptionnellement, c'est ça qu'exception, le réseau pète, IO pète sur n'importe quel truc. Error, c'est vraiment un truc divisé par zéro, c'est une erreur. Jamais de la vie, ce sera possible.
Oui.
Ouais. Voilà, t'as ces deux diffs-là. Et en fait, en PHP, tu peux register un callable qui va être déclenché au moment où il y a une exception ou une erreur qui arrive.
Ok. Oui, donc, un peu comme dans un script bash où tu peux catcher des signaux, des
c'est
trucs ça. Comme ça.
Exactement, c'est un peu le même principe. Donc pour vraiment des... Puis d'ailleurs, dans PHP, depuis... Alors, j'ai plus une bonne version, mais ça fait un petit moment déjà. Erreur et exception ont maintenant une interface commune qui s'appelle throwable. Quelque chose qu'on peut rejeter comme ça. Et donc on peut, dans un try catch, catcher du throwable, et ça va catcher soit une erreur, soit une exception. Et après, on peut chaîner des catchs.
Ok.
Pour gérer ça finement. Mais on n'avait aucun moyen jusqu'à maintenant de récupérer le callable qui avait été défini pour gérer une erreur ou une exception. Donc maintenant, on a moyen de le faire. Donc c'est du low level, hein. Ça va être utile dans les frameworks, hein, dans Symfony, dans Laravel, dans d'autres librairies, mais ça va être peu utile dans du code userland qu'on fait au quotidien.
J'imagine.
Voilà, puis après, il y a quelques nouvelles constantes. Il y a la possibilité de détecter si un code de local est right to left ou left to right. Ça peut être utile.
Ça, c'est intéressant, oui.
Ouais, dans certains cas. Quand tu manipules du farsi, de l'arabe ou des langages qui sont à l'inverse des langages occidentaux latins, qui sont pas de gauche, qui sont pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, je vais y arriver. Ça peut être pratique d'avoir la réponse rapidement de est-ce que ce langage-là, à travers son code, est du RTL ou pas. Donc voilà pour les grosses nouveautés. Après, il y a des améliorations de performance, des modifications internes, mais voilà, pareil, on ne va pas faire la liste exhaustive. Mais on a un article de blog sur le blog de Sensio Labs qui récap un peu toutes ces news-là, si vous voulez aller voir. Voilà. Bon, et donc, on s'attend à une version finale à peu près synchronisée avec Symfony, normalement au mois de novembre, fin novembre.
Et donc, Symfony sera compatible PHP. De toute façon, non, il n'y a rien de cassant.
Alors, il n'y a rien de cassant, donc ce sera compatible. Mais par contre, Symfony, dans la prochaine version, ne requerra pas d'être 8.5 minimum.
Ouais, parce ça serait un peu frais,
c'est trop tôt. Et,
ouais, bien sûr.
Et ouais, il faut le temps que nous, on règle aussi les dépréciations qu'il y a, parce qu'il y en a. Donc, voilà. Il y a un gros sujet d'ailleurs sur un truc qui est déprécié. Je vais pas ouvrir ce sujet-là parce qu'il est sujet à beaucoup de débats, mais il y a un truc là-dessus. Donc non, on reste, Symfony tournera, les prochaines versions seront encore avec 8.2 requis minimum. Mais évidemment, on conseille d'être sur des versions qui sont pas end of life, hein, donc être à jour, c'est bien. 8.4, c'est bien, ça tourne très bien, ça marche super.
Nickel.
Et donc on peut enchaîner, si vous voulez, sur les nouvelles versions de Symfony qui seront synchronisées du coup avec la version
de PHP. Maintenant t'es obligé, raconte.
Je vais encore beaucoup parler. Donc Symfony, ce qui est cool, ce qui fait plaisir à pas mal d'entreprises en tout cas, c'est que le calendrier de release, il est fixe. On a des mineurs qui sortent tous les 6 mois, donc fin mai, fin novembre, et on a des majeurs qui sortent tous les 2 ans au mois de novembre, donc c'est synchronisé, hein, la majeure du mois de novembre est synchronisée avec la mineure du mois de novembre de l'année en cours. Et la point 4 qui sort au mois de novembre est toujours la LTS, donc elle bénéficie de point 0, point 1, point 2, point 3 qu'il y a eu pendant 2 ans, et donc on a une LTS stable, et la LTS sort en même temps que la point 0 de la version majeure suivante. Et donc là, fin novembre, on aura 7.4 qui sort et 8.0 dans la foulée qui sont tagués en même temps. Et la diff entre ces deux versions-là, c'est il n'y a pas de diff de fonctionnalité, il y a la même chose dans les deux. C'est juste que dans la 8.0, on enlève toute la couche de backward compatibility, donc de rétrocompatibilité qu'on a maintenue depuis 2 ans dans la branche 7. Donc on enlève cette couche-là et on repart avec une couche propre pour faire le cycle de vie de la 8.1, 2, 3, 4.
D'accord.
Donc voilà, c'est comme ça que marche le calendrier de release de Symfony. Et donc là, on va avoir 7.4.8.0 qui sortent au mois de novembre et qui, comme d'habitude, ont été construites par la communauté. On n'a pas de plan dans la core team qui dit bah, pour dans 2 ans, on planifie de faire ça, de faire ça, de faire ça. Donc là, non, voilà, ça a été construit au fur et à mesure. Donc il y aura des bugs fixes, évidemment, des nouvelles fonctionnalités. De mémoire, il y a quelques nouveaux composants, je crois. On va pas tarder à approcher les 90 composants, je crois, dans Symfony. On date à 82-83 en ce moment. Donc ça augmente. On en enlève quelques-uns qui sont dépréciés, qui sont plus utiles de temps en temps. Mais il y en a certains qui arrivent. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur la release de Symfony. Parce que moi, c'est un peu mon quotidien. J'ai le nez dedans tout le temps, mais s'il y a des choses qui vous intéressent, on peut en discuter.
Bah, pas particulièrement, à part de... Si, moi, il y a une, mais c'est pas que sur la nouvelle version, c'est aujourd'hui. Si je suis un développeur qui a fait des PHP à l'époque, comme Sébastien parlait dans l'épisode précédent, et qu'avec cet épisode, j'ai dit, tiens, ça peut être intéressant de revenir vers PHP. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est Symfony?
Symfony à l'origine, c'est un framework d'entreprise en fait, qui vient même de Sensio Labs, donc la boîte dans laquelle je travaille, qui s'appelait à l'origine Sensio Framework. Et donc c'est pour ça que dans Symfony, il y a un F. Parce qu'à l'époque où ça a été écrit, où Fabien Potentier l'a écrit, donc Fabien Potentier qui est le créateur du framework, hein, qui était cofondateur de Sensio Labs, de Sensio à l'époque, il n'y avait pas les namespaces en PHP, et donc il fallait des noms de classe uniques, et donc ces noms de classe étaient préfixés, et donc pour le framework, ils étaient préfixés SF, donc c'est pour ça, il fallait trouver un nom qui garde SF, pour éviter d'avoir tout renommé, ouais. Donc ça vient de là, et en fait, bah, c'est un framework web, pour construire des applications web, qu'elles soient avec une interface utilisateur, donc du HTML, ou construire des API, ou même construire des applications en ligne de commande, puisqu'on a un composant console qui permet d'avoir bah, en entrée de faire une application qui ne tournerait que dans un terminal. Donc voilà, on a ces trois cas d'usage, et autour de ça, on a développé tout un ensemble de composants, et en fait, depuis depuis longtemps, depuis la version 3 maintenant, en fait, c'est plus un full stack framework par défaut. Le framework est devenu en fait un ensemble de composants et on a un bundle, donc un package dédié à l'environnement Symfony qui vient agréger tout un ensemble de composants, soit pour faire de l'application console, soit pour faire de l'API, soit pour faire de la web application. Et donc suivant le type d'application qu'on veut faire, on va installer ou pas tel ou tel type de composant. Donc quand on veut faire du web, on va généralement installer le HTTP kernel, l'HTTP foundation, de quoi manipuler des formulaires, de quoi faire du templating avec Twig, tout un tas de choses qui permettent de faire de l'application web moderne et donc de manipuler tout ce qui fait une application web. Et quand on va faire de la console, on va installer le composant console, vouloir manipuler des chaînes de caractères, on a un composant string qui permet de manipuler de l'UTF-8, aller taper sur des code points, etc. Je vais pas faire la liste de tous les composants parce que comme je disais, il y en a plus de 80. Mais voilà, il y a des fondamentaux, des choses qui sont là depuis le tout début, depuis Symfony 2, et puis il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. On a eu récemment JSON Pass pour implémenter la RFC JSON Pass, pour aller fouiller dans un JSON avec un chemin. Voilà, on est en train de bosser sur une nouvelle version du serializer, parce qu'on peut sérialiser des données avec Symfony, mais on a des problèmes de performance à l'échelle, où vraiment quand on a besoin de faire des trucs très performants, on n'est pas aussi efficace que d'autres technos, et donc on est en train de bosser là-dessus. On a JSON Streamer qui est arrivé récemment, et d'autres choses qui arrivent dans le futur. Voilà, on a tout un composant sécurité pour gérer l'authentification, l'autorisation aussi. Donc voilà, Symfony, c'est un ensemble de composants qui permettent de construire des applications, qu'elles soient web ou terminal, ligne de commande. Et au-dessus de ça, on a des bundles qui permettent d'agréger tous ces composants-là pour faciliter la vie des développeurs pour construire ces applications.
Et maintenant, c'est le moment où je vais me mettre à dos et la communauté PHP et la communauté Java en disant
bon courage.
C'est un peu les Spring de PHP.
Et voilà, je savais que tu allais dire ça. Et ouais.
Par contre, je.
Mais c'est pas totalement faux. Vas-y, Julien, pardon.
Pas de soucis. Blague à part, je découvre en regardant un peu plus la Symfony pendant que tu parlais. En fait, il y a pas mal de CMS, de framework, etc., qui se basent sur les paquets Symfony dont tu parles.
Ouais, alors, tout à fait. Depuis que ça a été éclaté en composants.
Drupal utilisait plein de trucs de Symfony.
Depuis la 8, je crois, ouais, Drupal utilise des composants, pour le coup, plutôt bas niveau de Symfony, le kernel et les fondations, je crois, HTTP kernel, HTTP fondation. Depuis un petit moment, la Ravel aussi est basée sur une partie des composants de Symfony. Il y a pas mal de choses. WordPress, pas encore.
Hein. je me posais une petite question. Historiquement, PHP, par défaut, c'est un moteur de template. Enfin, dans son cœur le plus. Enfin, comment dire. À l'époque où
dans,
ça s'appelait.
Dans son origine, ouais.
Dans son origine, tu vois, à l'époque où c'était
du HTML, quoi.
Ouais, c'est ça. À l'époque, tu exécutais du PHP et à la fin, tu avais du HTML. Mais du coup, pourquoi Twig? Enfin, qu'est-ce que ça apporte, tu vois? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de PHP, hein, donc je suis pas très naïf dans mes questions.
Non, mais c'est une bonne question. Et pourquoi Twig? Et ça enchaîne la question pourquoi Blade dans le monde de la Ravel et pourquoi plein d'autres moteurs de template en PHP? Parce que séparation des responsabilités. Et donc, on va garder le langage applicatif pour faire de la logique, du back-end, de connexion à des bases de données, tout un tas de trucs. Et qu'on va déporter la partie décoration, présentation. On est sur du modèle MVC, donc on va pas garder la partie vue avec le tooling dédié à faire de la vue, et donc on va éviter de faire de la logique applicative de ce côté-là, et donc on a tout le nécessaire. Mais après, rien ne t'empêche, Twig est extensible en fait, donc si tu as besoin de créer une nouvelle fonction Twig qui permet d'optimiser ta génération d'HTML, ou avec Twig tu peux générer n'importe quoi dans du texte, du coup tu peux étendre les trucs de Twig, mais tu as toute une série de fonctions qui te sont fournies dans Symfony, à travers différents bridges sur différents composants. Par exemple, pour les formulaires, tu as tout de quoi générer des formulaires sans écrire tous les tags de formulaires HTML à la main. Tu as pas mal de choses comme ça.
Marrant.
Twig a été créé aussi par Fabien Potentier, mais c'est deux projets séparés. Symfony et Twig sont deux choses différentes.
Et pareil, j'ai découvert aussi en regardant un peu ce qui existait, dans les packages, il y a des polyfills pour les nouvelles versions de PHP.
Exactement,
ce qui te permet de ne pas avoir à migrer si ton hébergeur ne fournit pas encore ses uns, j'imagine.
Ouais, ça te permet ça, alors en grande partie, parce que ça va être de la réimplémentation de nouvelles fonctions natives de PHP, mais en pur PHP. Donc si on parle de 8.5, typiquement first or last, on va les réimplémenter ça a peut-être d'ailleurs déjà été fait, mais la réimplémenter en pur PHP. Évidemment, tous les changements de syntaxe de PHP ne peuvent pas être pris par ces polyfills-là, parce que l'interpréteur ne va pas les comprendre. Mais ouais, toutes les fonctions, toutes les nouvelles fonctions natives de PHP de nouvelle version se retrouvent dans des polyfills pour que, bah, à la fois, on puisse les utiliser userland, mais à la fois, quand côté Symfony, on a besoin de s'en servir, si la personne qui a installé Symfony tourne sur des versions récentes pour utiliser la fonction native de PHP, ouais. Si c'est pas le cas et que le polyfill est installé, et ben du coup on va pouvoir utiliser ça.
C'est top hein, parce que ça te permet de faire avancer Symfony sans avoir à attendre tous les utilisateurs.
Quoi. Exactement, ouais tout à fait.
Parce que donc ça, c'est, toutes c'est les applications PHP dans le monde, d'ici que tout le monde se mette à jour à PHP 8 déjà.
J'ai encore un pote qui m'a dit ce matin, j'ai un grand groupe français dont j'ai pas le nom et de toute façon je le donnerai pas, mais qui me dit on est bloqué sur des comptes rétrocompatibilité, est-ce qu'on est encore en 5.3
je crois qu'on a encore 3 applications en 5-6.
Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Oui.
Plus que 3, hein. c'est pas énorme hein, par rapport
après, à. Après, on a peut-être du 5-7. Ou...
Oui, mais en tout cas, inférieur à 7. Quoi.
Du inférieur à 7, donc du 5-6. Ouais. Après, 7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4.
Ça, on aura. Ça, on
oui,
a pas
ça, du PHP 7, il y en a encore pas mal quand même.
Il y en a
7-4, 7-3, 7-4.
La migration, on a quand même vu que la migration 5-6 vers 7. A été elle assez lourde.
Elle était longue et lourde. Ouais.
Voilà. On a encore des gens qui sont en 7 parce qu'en fait, faut quand même le reconnaître. Hein. Parfois, il y a des gens qui lancent une application et ils la maintiennent jamais. Et tant que ça tourne, il n'y a pas de problème.
Ouais, c'est ça.
mais 7 vers 8, pour le coup, ça a été beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on a vu très, très vite ces applications, la plupart des applications PHP 7, arriver vers PHP 8. Et se maintenir à jour sur.
Et un peu à l'image de Symfony où il y a un calendrier de release fixe. Alors pour le coup, il est plus ou moins fixe sur PHP, mais par contre, il est plus régulé qu'à une époque.
Oui.
C'est donc, vrai que là, on a des versions plus régulièrement sur PHP qu'on a attendu la version 6 qui est jamais arrivée.
Ben,
pour finalement avoir la version 7 après un temps infini d'attente,
c'est
sûr que
je pense qu'il y a moins de changements.
Si, il y a toujours des changements cassants entre les versions majeures, mais c'est peut-être moins lourd. Disons que la façon de penser PHP par les développeurs a vraiment évolué entre la version 5 et la version 7.
Mais je dis ça, c'est aussi arrivé avec l'arrivée de la fondation. PHP est backé par une fondation dont JetBrains est à l'origine. Et ça aide aussi à cadrer les développements, à les financer, donc à rendre les choses plus stables. Et à s'occuper aussi de l'écosystème. Hein. Jusqu'à maintenant, on avait PECL qui permettait d'installer des extensions. Ce truc-là n'a pas évolué depuis, je n'ai pas compté le nombre d'années, mais très longtemps. Et donc ça a été refondu. Et maintenant, on a PIE, PHP Installer Extension, je ne sais plus ce que c'est l'acronyme. Mais pour le coup, qui est écrit en PHP, qui ressemble un peu à Composer. En gros, c'est le Composer pour installer des extensions PHP. Si je vulgarise le truc, c'est ça. Et donc voilà, on modernise aussi l'outillage qu'il y a autour du langage.
Et aussi, j'imagine que le fait d'avoir fait le gros boulot pour passer à PHP 7 chez plein de gens, ça les a aussi forcés à remettre le composer, à moderniser aussi toute leur stack. Et une fois que tu as modernisé ta stack, une fois que tu as du composer, que tu as tous ces trucs-là, passer de PHP 7 à 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7, je ne sais même plus combien, 8, etc. Le boulot est moins gros parce qu'en fait, tu as été attiré sur PHP 7 parce que gros gain de performance. Et une fois que tu y es, en fait, tu as fait le taf de toute façon de te mettre à jour. Et c'est beaucoup moins lourd de.
T'as fait le taf, t'as découvert les outils, t'as mis en place des process de mise à jour, et donc tu réutilises ton savoir.
C'est même pas les tafs et les outils, c'est que tu découvres que tu peux faire les choses d'une façon meilleure, plus performante, et tu vas partir sur ça pour d'autres projets, quoi.
Tout à fait, ouais.
Il nous reste encore un peu de temps, donc je pense qu'on peut y aller piocher dans les liens. Tiens, Julien, tu nous disais que tu avais un candidat pour outil de la semaine.
Yes. Je peux parler d'un autre petit sujet avant ?
Bien sûr.
Un truc que j'ai trouvé un petit peu marrant, une petite faille de sécurité qu'il y a eu sur une API legacy de chez Azure.
Oh.
L'idée, c'est, encore une fois, on n'est pas là pour taper sur les concurrents, parce qu'en fait, tout le monde, la sécurité, c'est jamais une question de est-ce que je vais me faire avoir, mais de plutôt quand est-ce que je vais me faire avoir.
Oui.
Donc on a régulièrement chez Clever Cloud des chercheurs en sécurité qui nous remontent des failles plus ou moins graves qu'on traite, qu'on corrige. C'est, la sécurité, c'est jamais un état, c'est un processus, de toute façon. Et là, il y a quelqu'un qui, préparant tranquillement sa conférence sur un truc un peu marrant qu'il avait trouvé dans des vieilles graphes API de chez Azure, en préparant ses slides, il s'est rendu compte qu'il y avait une énorme faille de sécurité qui te permet, avec un token qui est censé accéder à donc, ce qu'on appelle un tenant, c'est-à-dire le compte d'un client, tu peux accéder à tous les comptes de tous les autres clients parce que il suffisait de changer un ID au bon endroit dans le JWT et sur une API précise. On ne parle pas d'aller exploser sur tous les comptes de tous les produits Microsoft, mais sur une API un petit peu legacy, tu pouvais, avec ton token, si tu changeais dans le JWT la bonne valeur, comme tu avais le droit d'utiliser un JWT sans signature, t'avais beau avoir la signature qui est à l'intérieur du token qui est censée t'autoriser à utiliser le tenant 1, tu pouvais aller taper les ressources du tenant 2. Et il utilise ça, enfin il se base sur quand t'es admin dans ton tenant, donc dans ton organisation, tu peux via une certaine API récupérer ce qu'ils appellent un actor token qui te permet de te connecter à l'API en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ça peut être parfois très pratique pour tester des outils. Genre, par exemple, tu as quelqu'un dans ton organisation, dans ton entreprise, qui galère à faire un truc, et tu veux voir exactement son écran avec ses droits, avec ses trucs, et ben en fait, tu utilises ce token pour te...
Tu fais de l'impersonnation.
Exactement, impersonnation, exactement. Et donc, il y avait ce truc-là, et en fait, ces tokens-là, ils avaient deux choses intéressantes, c'est que tu pouvais changer le tenant ID qui n'était pas vérifié dans certaines vieilles API. Et en plus, tant que tu faisais de la lecture, quand tu utilisais un actor token, il n'y a rien qui était logué. Donc ça rend les choses encore plus difficiles. Heureusement, il y a quand même du logging qui est fait quand tu modifies des ressources. Mais il faut avoir l'œil, et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est qu'il conclut l'article en disant « Je vous ai donné la requête à faire dans, justement, la graph API machin d'Azure pour regarder, enfin, pour rechercher des requêtes de modification qui auraient été faites en utilisant cette faille. » Donc, c'est quand même plutôt cool. Il a, avant de publier ça, bien sûr, il en a informé Microsoft qui a réglé ça en 2-3 jours. Mais voilà, c'est assez marrant, assez marrant à lire comme comme article si vous aimez la sécurité et l'histoire de token.
Et pour se dire qu'il n'y a pas que les petits qui sont impactés par des failles de sécurité, mais aussi les gros.
Oui, il faut être extrêmement humble quand il s'agit de failles de sécurité.
Ça, c'est sûr.
Ça me rappelle une histoire de driver de disquette qui était compilée dans certains kernels. Chez certains gros acteurs du cloud et pas chez d'autres.
Voilà.
Anecdote au fait que Clever ne compilait pas ce fameux driver auquel il y avait une faille.
Après, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on se dit c'est une grosse entreprise, c'est pas possible qu'elle ait des failles de sécurité. C'est, en fait, on imagine qu'ils sont invincibles par leur statut en termes de taille, d'argent, etc. Enfin, tout le monde pense pas comme ça, mais c'est vrai que souvent, le raccourci dans certaines DSI, dans certaines entreprises, c'est vraiment ça. C'est un gros, donc de toute façon, et on risque rien.
Enfin, en tout cas, tout le monde... C'est pas la première fois qu'il y a des failles chez Azure, c'est pas la première fois qu'on a des failles chez Clever Cloud.
Je pense que ce sera ni la dernière non plus.
Non, c'est ce que disait Horatio ou Julien, je sais plus. C'est pas est-ce que je vais me faire avoir, c'est quand je vais me faire avoir.
Et il faut être extrêmement humble, ça va arriver à tous.
C'est ça. Mais ouais, ce truc-là était assez drôle parce que, effectivement, enfin, et je suis pas un grand chercheur en sécurité, je suis même pas un bon chercheur en sécurité, hein, qu'on soit honnête. Mais effectivement, prendre un token et te dire bah, qu'est-ce qui se passe si je change l'ID qui est dans le token ? Est-ce qu'il est toujours valable ? Ce genre de choses, quand tu es dans ce boulot-là, c'est une évidence. Mais c'est effectivement le genre de choses que tu penses jamais à vérifier. Est-ce que j'ai bien vérifié que la personne... Enfin, voilà. Parce que toutes les vérifications sont faites, quoi.
à tous les endroits, parce que c'est ça. Tu peux avoir les vérifications partout, sauf, tu as la faille dans les sauf.
Exactement. Ouais, ça rapproche un autre lien que j'avais posté aussi dans notre grande liste de liens. C'est un exercice national dirigé par l'ANSSI, qu'ils ont appelé Rempart 25. Et en fait, c'était une simulation de crise cyber nationale. Et donc, ils ont rassemblé plein d'acteurs, que ce soit évidemment du technique, mais aussi du juridique, du légal, du territorial, pour faire en sorte de réagir correctement à une crise cyber d'ampleur majeure. Et donc, je ne sais plus combien d'acteurs ils ont réunis. Ils ont couvert ça sur 8 fuseaux horaires parce qu'ils ont inclus la Polynésie. Enfin, la Polynésie, je vais dire DOM-TOM, mais je sais qu'il y a un autre terme maintenant plus récent. Mais on essaie d'inclure les territoires qui sont au-delà de la métropole.
Ultramarins, non, c'est pas ça qu'on
dit. Ultramarins, voilà. Et donc, bientôt, ils vont publier. Alors, ils ont annoncé que l'exercice a eu lieu, je crois, le 18 septembre. Et ils vont publier des documents à propos de cet exercice-là, donc quel était le scénario, comment ça s'est passé, comment ils ont répondu, comment ils se sont coordonnés, organisés. Donc tout ça pour dire que ouais, ça répond aussi au... On va de toute façon faire... On peut faire face à ce genre de choses, c'est comment on y est préparé, comment on y réagit, et qu'est-ce qu'on prévoit dans ces cas-là, et comment on protège les infrastructures nationales vitales. C'est super intéressant, j'adore ce genre de sujet. Globalement, les ressources qui sortent de l'ANSSI sont souvent intéressantes.
Carrément. Et pour finir, tu nous avais promis un outil, Julian.
Petit outil de l'épisode. Alors, ce matin, j'ai aidé des collègues à débugger un problème avec les Jenkins qu'on héberge chez Clever Cloud. Et j'ai un collègue qui nous collait un certain nombre de logs du truc pour qu'on essaye de trouver. J'étais un peu fatigué et lire des logs en noir et blanc, ça me saoulait un peu.
Et donc
j'ai tapé très naïvement dans mon moteur de recherche préféré cat with color ou un truc comme ça, ou enfin log reader with colors ou un truc comme ça, et je suis tombé sur un outil qui s'appelle Tailspin, qui est codé en Rust, parce que tout bon outil de la semaine est forcément écrit en Rust.
Clever Cloud Forever.
Qui est en gros un pager c'est en gros un pager avec des regexp, avec des expressions régulières, qui va mettre de la couleur dans les logs. Donc s'il y a une date, il va mettre la date en rose et l'heure en bleu. Certains keywords, par exemple, si t'as true, il va le mettre en vert, si t'as false, il va te le mettre en rouge. Des nuls, des trucs comme ça. Et en gros, ça rajoute un peu de couleur. Ce qui, à moindre coût, permet de mieux se repérer, je trouve, dans des logs. Surtout quand tu passes pas ta vie à lire des logs Jenkins, que tu sais pas trop où regarder ou que t'es pas habitué au format qui est pas exactement le même que les applis que toi tu maintiens. C'est toujours un petit peu galère. Et quand t'as le log qui est pas déjà coloré, ça rajoute des trucs marrants. Ça va colorer les IP, ça va colorer... Alors, j'aime pas du tout la façon dont ils colorent les UID. Je trouve ça très moche et pas très lisible. Mais au moins, tu sais que c'est un UID, quoi.
Et donc, au lieu de choper un mal de crâne à cause des logs en noir sur... enfin, en fond noir sur couleur blanche, tu te chopes une crise d'épilepsie par les couleurs multicolores et arc-en-ciel.
Sauf si t'as bien réglé les couleurs de ton terminal avec une palette.
C'est vrai que la façon dont tu décris, j'ai l'impression que c'est. Je me retrouve avec une palette complète des couleurs dans mon terminal.
Un petit peu, mais en vrai, c'est pas déconnant et d'un
Parce
coup, ça m'a aidé. Quoi.
C'est vraiment l'outil. C'est configurable en TOML.
Je crois que oui.
Excellent.
Et effectivement, ouais, c'est ça, thème.toml. Donc tu peux mettre ton thème, choisir les couleurs aussi pour des keywords. Tu peux mettre tes propres. Au moment où tu l'appelles, tu peux lui dire je veux mettre ces mots-là en rouge, ces mots-là en vert ou en jaune. Et tu peux mettre une liste de mots que tu veux chercher. Comme ça, ça fait un peu comme un grep, mais où tu as tout le contexte, quoi, par exemple. Franchement, c'est un truc à installer, un cargo install Tailspin. Tail comme tail, le tail à l'ancienne de Linux, et spin comme un truc qui tourne.
Comme la queue, tail.
Oui, c'est ça.
Exactement, oui.
Et tout ça me rappelle un épisode de Massy que je voudrais faire un jour dédié aux terminaux. Parce que chaque fois que je vois passer les outils que mes collègues utilisent pour les terminals, je me dis vraiment, il y a tout un monde. Moi qui j'ai continué avec mon terminal nom de base ou un petit iTerm, là vraiment, je pense qu'il y a de quoi tenir un épisode complet.
Ah bah, je veux bien en parler parce que moi je suis passé sur Ghosty avec Starship pour le prompt. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on pourrait faire une heure dessus sans aucun problème.
Il m'a perdu le messier.
Bon, on tous les amateurs de fiches chez Clever Cloud aussi.
Ouais, je suis encore sur ZSH, je suis pas sur Fiche, mais ça sera un autre épisode, ouais, carrément.
Voilà.
J'ai ZSH aussi, rassure-toi.
On va faire le gros épisode débat.
ZSH à la critique, moi.
Bon, côté. Dans ce cas-là, on va arrêter celui-là ici avant de rentrer dans des débats religieux sur quel terminal est le meilleur. Qui va nous proposer une musique de fan?
Je vois que Mathieu en avait une deuxième, sinon j'en ai une si ça vous intéresse.
Horatio, je te laisse faire, faire juge.
Bon, allez, on va faire quelque chose d'unique. On va proposer des salles, des ambiances, des musiques de fan. Julien, la tienne.
Alors, mon petit frère fait de la chorale depuis 2 ans et je suis allé l'écouter en juin et ils ont interprété avec sa chorale là le dernier jour du disco de Juliette Armanet et ça fait depuis juin que j'ai cette musique dans la tête et en vrai il y a du peps, j'aime bien sur mon vélo ou en faisant la vaisselle.
Donc, ça fait depuis juin qu'il a ça dans la tête et maintenant il a envie que vous l'ayez dans la tête aussi.
Exactement.
Nickel. Merci beaucoup.
J'en ai une autre dans la tête qui ne fait pas penser à ça. Mais...
Bon, ça bah, maintenant, la musique de fan de la musique de fan de Mathieu.
Eh bien, c'est Archive, donc un groupe britannique. Et attention, c'est un morceau qui fait 18 minutes.
Ouais,
c'est un très long morceau qui va très crescendo, et c'est un morceau qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Ça fait longtemps que je l'écoute, et généralement c'est pour me faire des tunnels de concentration, donc soit je suis à fond dans une brique de code et faut pas m'embêter, et du coup je me mets ce truc-là et ça m'aide à me concentrer, soit au calme dans le train, ça marche
ça
très bien.
Ça fait presque un pomodoro en termes de durée.
Ça fait presque un pomodoro en musique, donc Archive, le morceau Lights, qui vient de l'album du même nom.
Bon, Sébastien, pour que tu te sens pas exclu, tu nous proposes une troisième musique de fan?
Voilà, je veux vous partager celle que j'ai tendance à avoir dans la tête en ce moment. C'est, alors attendez que je retrouve, c'est une reprise de Jean-Jacques Goldman, c'est encore un matin. Voilà, je suis tombé sur le remix de, comment il s'appelle, Ses Phases, un truc comme ça, il y a quelques temps, et puis ça m'est rentré dans le crâne, voilà, donc le dernier jour du disco me l'a remis dans le crâne, donc je vais pas réussir à me la sortir tout de suite.
Bon bah, tu nous laisses les liens, comme ça il sera dans le crâne de tout le monde.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous trois, c'était un vrai plaisir d'être avec vous pour cet épisode. Et à très bientôt. Au revoir.
Merci pour l'invitation.
Au revoir.
Salut, au revoir. C'est la fin.